Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission. Comme sujet aujourd'hui, on va commencer l'émission avec Maître Patrick Martin-Ménard. C'est l'avocat qui représente la famille de Joyce Echaquan. Vous savez qu'il y a une enquête publique du coroner. Il nous explique comment il y a eu des erreurs, des fautes lourdes dans ce dossier-là. Il nous en parle. Ensuite, Maître Jean-Paul Boily est là pour nous parler de l'avortement qui revient à la Cour suprême. Après, depuis les années 70 qu'on n'a pas parlé, on n'a pas réouvert le dossier. Donc, il nous en parle. Par la suite, il y a Maître... On vous dit à l'avocat d'abord comment contester un ticket COVID, une contravention COVID. Parce que oui, on n'incite pas à la désobéissance, mais quand même en droit, on veut informer notre public à savoir comment faire pour contester une contravention. Et pour terminer, Patrice Ouellet est avec nous pour nous parler du déconfinement, de la manière que le gouvernement gère tout ça. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
L'enquête publique du coroner dans l'affaire Joyce Echaquan s'est poursuivie de cette semaine. Beaucoup de développement. On a entendu le témoignage d'une infirmière là, qui, vous vous rappelez l'infirmière qu'on entend dans la vidéo qui avait des propos déplacés. Moment très sérieux parce que, bon, pour la famille de réécouter ce qui a été dit. Une infirmière qui semble troublée par ce qui se passe, qui pleure, qui dit que c'est pas ce qu'elle voulait. Mais tout ce dossier-là, évidemment, une mère de 6 enfants, tout ce qui s'est passé, on veut faire la lumière avec le coroner. Et on en parle avec Maître Patrick Martin-Ménard qui représente la famille, qui est avec nous. Bonjour, Maître Martin-Ménard.
Bonjour.
Merci d'être là. Expliquez-nous en premier lieu, bon, l'enquête publique du coroner va servir à quoi, là?
Bon, évidemment, donc la coroner n'a pas du tout le même rôle qu'une juge lors d'un procès. C'est vraiment donc une enquête qui vise à trouver principalement les causes du décès et à faire des recommandations ensuite pour mieux protéger la vie humaine. Donc, dans le contexte de Mme Echaquan, évidemment, il y avait de très nombreuses questions, de très nombreuses irrégularités autour de son décès et des circonstances en fait dans lesquelles il était survenu. Et c'est dans ce contexte-là que l'enquête publique a été ordonnée.
Mm-hmm. Et pour l'instant, est-ce qu'on en apprend plus sur quelle serait la cause du décès?
Oui, donc en fait, là, on est à la fin de la deuxième semaine de l'enquête. Dans la première semaine, on a entendu davantage des témoignages donc de la famille de Mme Echaquan, de mes clients, de même que de membres de la communauté qui sont venus témoigner de différents aspects, là, notamment au niveau des difficultés qu'ils avaient de recevoir des soins à cet hôpital-là, des problématiques de discrimination, d'accès aux soins de santé. Et en fait, de l'état d'esprit de Mme Echaquan au moment où elle se rend à l'hôpital, en fait. Là, dans un contexte où essentiellement, elle éprouve des douleurs au ventre extrêmement importantes qui vont en s'empirant d'une journée à l'autre pendant plusieurs semaines. Et finalement, elle se rend à l'hôpital, ce qui n'est vraiment pas facile à partir de la communauté de Manawan jusqu'à l'hôpital. Donc, c'est quelque chose qui est très... c'est une très longue route pour se rendre jusque-là. Elle se rend là et malheureusement, rapidement, elle est étiquetée comme étant une patiente narcomane, en fait. Okay. Qui serait venue à l'hôpital pour chercher des narcotiques. Et elle n'arrive pas à recevoir les soins de santé qui sont requis par son état, en fait. Là, on n'investigue pas sa douleur au ventre de ce qu'il faut. Mm-hmm. On la traite comme une patiente un peu en
problématique, en sevrage, qui n'est pas là pour les vraies raisons.
C'est ça. Et là, à ce moment-là, dans la deuxième semaine, en fait, dans la semaine qui vient de se terminer, là, on a commencé à entendre des témoignages du personnel médical, du personnel hospitalier, des infirmières, des médecins qui sont venus parler vraiment des soins qu'ils ont prodiguer ou non à Madame Échaquan. Mm-hmm. Et là, encore une fois, ben ces témoignages jeunes nous ont permis là, de constater de très nombreux manquements au niveau de la façon dont l'hôpital, dont la salle d'urgence était gérée.
Quel genre de manquement?
L'élément le plus frappant, en fait, le plus problématique là, qui est ressorti, c'est le fait que Mme Échaquan, en fait, ayant été étiquetée comme narcomane, une étiquette qui avec le temps, avec les journées d'hospitalisation, va devenir comme une étiquette de toxicomane. Hein. L'infirmière, on vient à penser qu'elle est en sevrage de cannabis, donc qu'elle consomme beaucoup, puis qu'elle a fait des mauvais choix. Ce qui n'était pas du tout le cas en passant. Hein. C'était vraiment simplement là, une perception que le personnel avait. Selon nous, vraiment informé en grande partie par des préjugés, et en grande partie par des préjugés racistes à l'endroit des membres de la communauté Atikamekw de Manawan.
C'est trop bien.
Donc, le matin du 28, le matin de son décès, quand on parle là, de problèmes au niveau de la gestion et du fonctionnement de la salle d'urgence, Mme Échaquan est confiée l'infirmière de Mme Échaquan, c'est ce qu'on appelle une CPI, une candidate à la profession d'infirmière. Mm-hmm. Donc, une jeune femme de 20 ans, qui n'est pas encore infirmière, qui vient tout juste de terminer sa formation et qui fait un genre de stage en fait là, pour avoir le titre d'infirmière, qui n'a pas du tout été formée, pas du tout été encadrée. Et normalement, les candidates à la profession d'infirmière ne doivent pas avoir sous leur garde des patients instables. Mm-hmm. Or, c'est évident que Mme Échaquan, le 28 au matin, devient rapidement instable d'un point de vue médical, en fait. Là. Il y a un épisode qui est décrit comme étant un épisode d'agitation, mais dans lequel on comprend essentiellement que Mme Échaquan se plaint du fait qu'elle a une douleur extrêmement importante, douleur qui est prise à la légère par le personnel présent à l'urgence. Essentiellement, là, la candidate à la profession d'infirmière signale un médecin pour lui faire part de cet épisode d'agitation-là. Le médecin lui dit « Parfait, on va lui injecter un calmant et on va la contentionner. » Et c'est ce qui est fait pas longtemps après. Et la vidéo, en fait, la vidéo que tout le monde a vue, entendue, survient dans ce contexte-là, dans le contexte où Mme Échaquan est amenée dans une salle d'isolement. Mmh. Et là, on s'apprête à la contentionner. C'est là qu'on entend les propos tout à fait
déplacés, dégradants. Ouais.
Et là, suite à ça, mais Mme Échaquan est laissée seule dans cette salle-là. Pendant presque une heure, essentiellement, alors qu'elle devait faire l'objet d'une surveillance étroite. Mm-hmm. La candidate à la profession infirmière est débordée par un grand nombre d'autres patients instables. Elle fait seulement une surveillance un peu visuelle, très, très rapide. Si on va voir ces autres patients, et c'est pendant ce temps-là que Mme Échaquan éventuellement tombe en arrêt cardio-respiratoire sans que personne vraiment ne s'en rende compte. Et on a une autre vidéo qui a été filmée environ une heure plus tard où on voit essentiellement Mme Échaquan qui ne respire plus, qui est visiblement en détresse.
Okay.
Et personne ne fait rien. Et ça, c'est l'élément le plus troublant de cette enquête-là. C'est que cette dame-là a été laissée là. Elle était dans une salle d'urgence et elle n'était pas monitorée, elle n'était pas surveillée et elle est tombée en arrêt cardio-respiratoire sans que personne ne fasse rien avant un très, très long délai. Et lorsqu'on s'en est rendu compte, il était malheureusement trop tard.
Terrible d'entendre ça. Donc, il semblerait que ce soit un cas de négligence grossière, de pas avoir pris des moyens, teinté par des pensées, des propos racistes. C'est ce qui est mis de l'avant. Là. On n'a pas pris les moyens qu'il fallait pour sauver cette femme-là. Là.
Exactement. Exactement. Donc, je vous dirais, ça va bien au-delà des quelques minutes qu'on a vues dans la vidéo. Mm-hmm. Je dirais davantage que ça vient donner un contexte autour de cette hospitalisation-là, autour de la façon dont Mme Échaquan était traitée, en fait, non seulement par les deux personnes dans la vidéo, mais par le système de façon générale. Et ça vient aussi peut-être donner une fenêtre qui permet de mieux comprendre la problématique à laquelle est confrontée la communauté Atikamekw de Manawan et à laquelle sont confrontées les autres Premières Nations de façon générale aussi dans toute la question de l'accessibilité aux soins de santé.
Parce que
qui est très problématique.
Oui, c'est problématique parce que ce qu'on apprend aussi, c'est que la famille et même Mme Échaquan connaissait, avait une crainte d'aller à l'hôpital, si j'ai bien compris, là. Elle savait qu'elle ne serait pas traitée adéquatement. Là.
Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a attendu avant d'aller consulter. Elle se disait finalement que d'aller consulter à l'hôpital, ça ne vaudrait pas la peine. Mm-hmm. Parce que les fois où elle avait consulté auparavant, on lui avait simplement donné de la morphine et on l'avait renvoyé chez elle. Et c'est ce qu'on s'apprêtait à faire cette fois-ci aussi,
okay.
D'ailleurs.
Oui, mais est-ce qu'on a su quelle était vraiment la cause médicale de son décès?
Dans la preuve qui est sortie jusqu'à présent, évidemment, c'était une preuve simplement factuelle. Mm-hmm. Il y a une preuve d'expert qui est prévue plus tard dans l'enquête.
Okay.
C'est à ce moment-là, je pense que vous allez avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé d'un point de vue médical.
Je comprends. Et là, toute cette enquête-là semble relever des défauts majeurs et une problématique certaine. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça par la suite? Là, vous êtes l'avocat de la famille, sentez-vous à l'aise si vous pouvez répondre ou pas, mais il y a matière à poursuite par la suite, là, civile.
Écoutez, c'est ça. Puis écoutez, évidemment, je vais devoir vous donner la réponse que je donne toujours à cette question-là.
C'est ouais.
Que, là, on n'annonce pas ce qu'on a à annoncer en temps opportun suite à ça. Ceci étant dit, ce que je peux vous dire à ce stade-ci, c'est clair que la famille souhaite de tout cas que ce genre de situation-là ne se reproduise pas, que les choses changent. En fait, mm-hmm. on lui dit à chaque fois qu'on a un dossier comme celui-là, je vous dirais, donc on espère simplement que suite à l'important travail qui est fait présentement dans l'enquête du coroner, ça mène à un rapport avec des recommandations vraiment solides et qui vont être conjuguées avec une réelle volonté politique
ouais.
de changer les choses, ce qui n'est malheureusement trop souvent pas le cas. On se rappellera que après le décès de Mme Échaquan, il y avait eu de très belles paroles de prononcer
oui.
Publiquement par nos décideurs politiques. On se rend compte par contre qu'entre ce qui existe dans les hautes sphères politiques et la réalité sur le terrain, il y a un écart important et sur le terrain, il y a très peu de choses qui ont changé.
Mm-hmm.
Donc, il y a un travail important qui va être à faire. Mes clients ont l'intention de poursuivre ce travail-là après l'enquête du coroner, c'est clair.
C'est important pour eux que l'exemple soit donné et que ça n'arrive pas à d'autres personnes, si on comprend bien ça. Que le politique, qu'on tablette pas un rapport pour un drame et qu'on n'attende pas un nouveau drame, je comprends aussi. Je comprends que vous ne pouvez pas vous prononcer sur les poursuites. Moi, je peux, puis c'est sûr qu'il y a matière... à poursuite, certainement, pour une négligence. On sait que dans les hôpitaux, vous me le diriez, si vous êtes dans vos chroniques, le devoir de moyens doit être pris. Et là, on sent clairement que ce devoir de moyens n'a pas été pris et teinté par des propos, des racistes, une attitude qui... où est-ce qu'on a étiqueté quelqu'un sans savoir ce qui se passait vraiment. Très troublant d'entendre ça, Maître Martin Ménard. Merci de nous avoir fait part. Bonne continuation dans cette enquête-là. Là, on se reparlera pour en savoir plus parce qu'on comprend que c'est un combat qu'il faut mener jusqu'au bout. On se reparlera plus tard. Merci beaucoup.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
La Cour suprême des États-Unis va se pencher sur un dossier très important, à nouveau, sur le droit à l'avortement. Ici, c'est pas mal réglé, les balises sont faites. On pense à l'arrêt Morgan Taylor. Ce droit-là est reconnu aux femmes de pouvoir se faire avorter. Mais qu'en est-il aux États-Unis? Pourquoi à l'automne on va reparler de ça? Je pensais que c'était réglé d'ailleurs aux États-Unis, mais non. On en parle avec Maître Jean-Paul Boily qui est avec nous. Bonjour.
Ben oui, on pensait tous que c'était réglé depuis 1973. Souvenez-vous, vous étiez pas vieux, là, l'arrêt Roe contre Wade.
J'étais pas né.
Cette madame-là c'est un pseudonyme qu'elle avait, a demandé à ce qu'elle pouvait obtenir l'avortement à ce moment-là. Et Wade, en question, c'est Henry Wade qui était le procureur de l'État à ce moment-là, et il s'est opposé à ça. Et la Cour suprême des États-Unis avait dit non. L'avortement, ça fait partie des droits et libertés des personnes, et les femmes ont droit de choisir s'ils veulent garder le fœtus ou pas. Alors, depuis ce temps-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Cour suprême des États-Unis, depuis cet arrêt-là, Roe contre Wade, qui est cité ad nauseam dans toutes les décisions, a même fait école ici au Québec. Vous parliez de Morgan Thaler tout à l'heure, donc ça a été cité à l'époque aussi dans ces dossiers-là. A fait que plusieurs États américains, depuis, ont essayé de modifier leurs lois. Hein, et la Cour suprême des États-Unis, dans plusieurs cas, a refusé d'entendre ces dossiers-là. Pourquoi? Parce qu'ils disaient non, il y a l'arrêt Roe contre Wade qui dit que c'est un droit constitutionnel, l'avortement. On ne revient pas là-dessus. Il y a certains États maintenant qui ont limité le droit de se faire avorter à un certain nombre de semaines. Ce que l'arrêt Roe n'avait pas nécessairement fait de façon tout à fait précise. Donc, il y a eu des fois où certains États américains ont réussi à faire raccourcir le délai, si on veut, pour demander l'avortement. Donc, on disait, à un moment donné, un bébé en bas de 22 semaines, il n'est pas viable, donc vous pouvez avoir un avortement. Et là, certains États ont commencé à diminuer. Et ce qui est nouveau, parce que là, vous savez, aux États-Unis, depuis le mois de janvier, il y a un nouveau président, M. Biden, mais avant ça, il y en avait un, votre ami Donald, vous savez, M. Trump. Et M.
Ouais.
Trump, évidemment, a fait nommer 3 personnes à la Cour suprême pendant son mandat. Et ces 3 personnes-là, ben, sont connues pour ayant été des juges dits de droite, dont des gens très largement conservateurs, entre guillemets, là, pas parce qu'ils sont conservateurs au niveau étiquette politique, mais conservateurs, d'opinion, d'idéologie. Et la dernière en liste, Mme Barnett, bon, elle, c'est une chrétienne pratiquante, elle s'était déjà prononcée pro-vie. Donc, on connaît un peu ses valeurs idéologiques. Et les 2 autres aussi qui ont été... Kavanaugh avant et l'autre dont le nom m'échappe, sont aussi déjà déclarés pour ça. Là où il y a un problème, c'est que dans la loi qui est contestée présentement, c'est celle du Mississippi. Parce que l'État du Texas a déjà raccourci le délai, déjà renoncé au droit à l'avortement pour plusieurs, même dans des cas d'inceste. Alors, ils sont vraiment pro-vie, ils sont pas rendus encore la Cour suprême dans cet État-là. Or, là, c'est l'État du Mississippi qui, lui, a demandé à la Cour suprême de faire valider, c'est-à-dire, c'est pas vrai, c'est la personne qui contestait, on demandait à la Cour suprême de reviser une décision de la Cour d'appel de l'État du Mississippi parce que la nouvelle loi prévoit maintenant que c'est 15 semaines. 15 semaines, ça commence à être pas long, là. On parle un peu plus de 4 mois. Et là, ben, les gens ne pourraient plus avoir droit à l'avortement. Alors là, faut comprendre que la Cour suprême, cette fois-ci, elle a accueilli. Vous savez, on a des requêtes pour autorisation d'en appeler. On a ça à la Cour suprême du Canada. Aux États-Unis, c'est pareil. Il n'y a pas d'appel de plein droit, nécessairement, c'est surtout des questions constitutionnelles. Donc, le fait nouveau dans ce dossier-là, c'est que la Cour suprême américaine a décidé d'entendre ce pourvoi-là. Alors qu'avant ça, depuis 1973, de façon systématique,
il refusait. Donc, on veut réouvrir les livres.
Ben, on risque de réouvrir la boîte de Pandore, qui est le sujet de l'avortement aux États-Unis. Puis là, ben, vous voyez toute la problématique avec des juges qui sont de tendance, entre guillemets, de droite conservatrice. La Cour suprême, maintenant, il y en a 6/9 aux États-Unis. Là où j'ai une petite bémol, parce que, vous savez, on le dit, les juges sont nommés par les dirigeants politiques et, généralement, ils sont de nomination, entre guillemets, je dirais pas partisane, mais teintée de peinture. Hein? Vous savez,
aux États-Unis,
comment ça marche.
Ouais.
Alors, ben, c'est ça, là, que là où je pense que moi, en tout cas, j'estime que depuis, en fait, la nomination de Mme Barnett qui s'est faite, vous le savez, là, il y avait Ruth Bader qui était la juge libérale qui est décédée là, un mois avant l'élection américaine. Et là,
la juge qui avait à l'époque fait des causes pour rendre égal les hommes et les femmes.
Exact,
là.
Les droits et libertés de l'environnement.
On s'entend, ça avait été sur le banc, elle aurait été de l'autre côté.
Ça risquerait que le droit d'autorisation d'en appeler, il n'aurait pas été accepté, ça,
non.
C'est clair.
Mais rappelons à nos auditeurs, Maître Boily, c'est quoi les positions? Là? On dit pro-vie, c'est... Ouais. aucun avortement
COVID,
possible.
C'est seulement dans des cas où
la santé
est vraiment en danger et où on peut pas sauver, par exemple, le fœtus pour des raisons strictement médicales. Alors, le POVI dit, c'est le droit à la vie. Vous ne pouvez pas avoir d'avortement, sauf de quelques rares exceptions relatives à la santé, qu'il soit du fœtus ou de la mère.
Mais c'est difficile à contrôler. Moi, je me rappelle au Canada, c'est-tu Morgan Taylor ou un autre, le nom m'échappe, c'est une dame qui voulait se faire avorter et la cause, la Cour suprême, durant qu'elle l'entendait, se faisait avorter aux États-Unis.
Oui, c'est bon. Chantal, là, enfin, peu importe, mais il reste
notre recherche, c'est là-dessus, là, on va vous donner.
Ça va nous revenir, mais il reste que c'est cette décision-là. Elle avait fait école aussi parce que finalement, la dame était allée se faire avorter pareil.
Ouais.
Il reste que
la décision. C'était quasiment pendant l'audience.
Ben écoutez, c'est pas compliqué, là.
Chantal Daigle.
Daigle, voilà. Et son mari, qui était un être tout à fait gentil, non, mais il y a eu des problèmes.
Pour rappeler l'histoire, c'est que c'est son mari qui a fait une sorte d'injonction.
Il voulait pas, il voulait
pour la forcer à ne pas se faire avorter. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile à contrôler. Je ne sais pas comment, en 2021, même, je comprends qu'aux États-Unis, on est peut-être moins avancé sur certains dossiers. Ouais, mais
là, le problème que ça amène, l'État du Texas aussi a fait une loi qui, d'après moi aussi, pourrait être revisée par la Cour suprême. Là où on dit qu'il peut y avoir des problèmes, c'est que comme cette loi-là au Texas, ça autorise les citoyens à poursuivre en justice les médecins ou toute autre personne qui veut aider quelqu'un à se faire avorter. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça risque de permettre à toute la gang d'ultra-conservateurs qui vont finalement inonder les tribunaux de poursuites pour harceler ces gens-là. Comme ils ont fait dans le temps avec le docteur Morgenthaler, souvenez-vous, il y en a eu beaucoup de poursuites. Il y en a eu en Nouvelle-Écosse, il y en a eu au Québec, il y en a eu en Ontario, puis en Colombie-Britannique. Et puis là, ils vont même jusqu'à harceler les patients, les infirmières. Donc, c'est ça, là, c'est de créer une mentalité qui devient à ce moment-là lourde de conséquences. Et on sait que la loi texane, elle a des chances aussi d'être contestée jusqu'en Cour suprême. Mais si on rouvre ces boîtes de Pandore-là, ben c'est tout l'ultra-conservatisme américain. Et souvent, bon, évidemment, ça ne nous touche pas toujours au-dessus de la frontière, mais il reste que des mouvements comme ça. Vous savez, l'Ouest canadien, il y a des endroits où on a déjà parlé, le port d'armes, c'est pas légal, mais tout le monde a un fusil de chasse chez eux et tout le monde a une arme. Pourquoi? Parce que le poste de police est trop loin, puis c'est dans les mentalités. Alors, aux États-Unis, c'est un peu ça. On cherche à garder des mentalités d'extrême droite, puis à nourrir les tribunaux, parce que souvent, ben, si la loi dit, on est en temps de pandémie, Bernie, vous le savez, là, si la loi dit quelque chose, ben, il y a des gens qui respectent les lois, non?
Oui. Mais moi, pensez-vous, Maître Boily, on a vu beaucoup le juge Kavanaugh, là, il était exposé dans les médias à cause de son histoire dans les années universitaires.
Dans le temps qu'il allait à l'école.
Bon. Il a survécu à ça. On sentait qu'il était de droite, mais ça reste un juriste éminent.
Et tout à fait. C'est,
et tous ces juges-là, la Cour suprême, c'est les vedettes, là, c'est la ligue nationale, là.
C'est
des gens qui ont des têtes.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'en 2021, la religion et leur position de droite va teinter le jugement?
Ben, écoutez,
moi, j'ai l'impression que malgré tout,
ils vont quand même
pourraient avoir un jugement logique.
Ah, tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on allait le dire tout à l'heure, depuis que ces juges-là sont en place, il y a eu, j'ai pas dénombré le nombre de décisions, mais il y a plusieurs décisions où on disait, c'est des juges conservateurs, ils vont aller à droite. Non, ils vont dans le sens du droit.
Alors, et c'est des professionnels avant tout.
Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils fassent passer l'intérêt du droit, l'intérêt de la justice, avant leur idéologie. Et c'est là qu'on demande à ces juges-là, et on sait que la nouvelle juge, Amy Burnett, là, qui est une excellente juriste, par ailleurs, on espère que c'est ce qu'elle va faire. Maintenant, on peut pas en être sûr, mais pour que la Cour suprême des États-Unis décide d'autoriser ce pourvoi-là, dans le cas de l'État du Mississippi, ben on peut se poser des questions, parce que c'est une des premières fois où on décide finalement de dire, regarde, on va regarder ça. Il y a un autre aspect aussi à regarder, parce qu'on dit, là, ça fait depuis 1973. La loi évolue, les mœurs évoluent également. Alors, est-ce que la Cour s'est pas plutôt dit, ben oui, mais là, ça fait plus de 50 ans, est-ce que, ou près de 50 ans, est-ce qu'on pourrait pas jeter un coup d'œil là-dessus? C'est possible que ça soit ça.
Ben, ça serait quand même logique, sans nécessairement mettre la hache dans ce qui a été fait.
Mais il y a beaucoup de gens aux États-Unis, en tout cas, des juristes, mm-hmm. sur ce que j'ai vu et lu, qui mettent ça en doute fortement, puis ouais. ils ont peur un peu. Mais on va attendre l'automne, on verra qu'est-ce que la Cour suprême a
mis. On espère que les juges vont vraiment être indépendants. D'ailleurs, demain, Maître Boily, on va parler de ça, ouais, du rôle des juges. Un juge qui est dans l'eau chaude un peu, mais cette indépendance-là qui est essentielle. Je suis en train de m'étouffer. Bon, OK. Merci, Maître Boily. Bye-bye.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
On va maintenant parler de contestation, de contravention COVID. Ticket COVID, comme on les appelle dans le jargon. Pas qu'on veut vous inciter à la désobéissance, mais quand même, ceux qui ont des contraventions ont ce droit-là de se présenter en cour et de contester les contraventions pour différents motifs dont on va faire état. Parce que un peu plus tard, maître Sophie Mongeon va se joindre à moi pour compléter un peu ce que je vais vous expliquer, comment ça fonctionne. Et pour ma part, ben, je vais commencer par la portion contestation constitutionnelle, là, je l'ai bien dit. C'est vraiment ça, il faut que les gens le sachent. Là, dans ce cas-ci, ce qu'on apprend, c'est que bon, les contraventions COVID ne seront pas référées aux cours municipales. Ça va être gardé en cours du Québec. Un peu comme d'autres genres de contraventions pénales. On peut penser à des contraventions en droit du travail, à la CNESST. Toute une section, là, pénal et non criminel, à faire la différence. Donc, quand vous avez cette contravention-là, vous allez être amené là, à aller en cour. Et sachez, par contre, pour ceux qui veulent contester une contravention, la constitutionnalité, ben il faut absolument que vous fassiez un avis de 10 jours avant. C'est un formulaire qu'on vous pouvez trouver sur en googlant sur Internet. Là, ça vient du Code de procédure civile qui dit que quand on veut contester la constitutionnalité d'une infraction, ben il faut donner cet avis-là parce qu'il faut informer le procureur général de cette contestation-là parce qu'il va se joindre au dossier. Donc, sachez que si vous ne faites pas cet avis-là, vous ne pourrez pas rendu devant le juge dire ben je veux plaider la constitutionnalité de la contravention. Bon, c'est dit. Donc, pour ceux qui veulent aller dans cette partie-là. Pour le reste, bon, en cour municipale, c'est quand même des infractions. On pense aux infractions, bon, pour ceux qui n'ont pas respecté le couvre-feu. On parle aux infractions pour ceux qui n'auraient pas respecté les règles sanitaires en s'approchant trop. Déjà, on a vu des cas où est-ce que, bon, il y en a qui ont couru après, puis ça va être difficile à contester. Puis même, je vous dis, la constitutionnalité de tout à l'heure, ça va être très difficile. On voit déjà que les juges donnent le ton en disant, c'est la réalité, la pandémie. Pour ce qui est des... par contre, il y en a qui ont des défenses qui vont pouvoir les faire valoir devant le juge, amener une preuve. Par contre, quand on parle de pénal, il faut savoir que le fardeau de la preuve est renversé. Ça va être à vous de soulever un doute raisonnable pour être acquitté. Donc, il faut que vous fassiez une preuve, puis il faut jouer à l'avocat, monter le dossier, et vous pouvez être contre-interrogé également. Mais il y a des défenses qui peuvent se faire parce que c'est des infractions qu'on appelle à responsabilité stricte, ce qui veut dire qu'on a le droit de faire une défense, au contraire d'une infraction à responsabilité absolue, où est-ce que l'exemple, c'est on brûle un stop, le policier vous a vu le faire, donc quand même vous dites, ben j'étais distrait, ben vous l'avez fait, donc vous êtes condamné. Pour ce qui est des infractions COVID, ben infraction à responsabilité stricte, on peut produire une défense, souvent une défense, bon, parce qu'il peut y avoir des raisons, exemple, pourquoi vous étiez pas à la résidence durant le couvre-feu, bon, il y a peut-être une mauvaise interprétation du policier si vous étiez proche de quelqu'un ou pas, vous pouvez produire ces défenses de diligence raisonnable avec ce genre d'infraction-là. Donc, ça met un peu la table à savoir comment ça va se passer devant la cour. Mais on va y aller encore plus précis avec Maître Mongeon qui est avec nous. Bonjour, Maître Mongeon.
Bonjour, Maître Bernier.
Donc, ici, là, il y a des défenses déjà qu'on peut penser en vertu des décrets. Où est-ce que les gens vont pouvoir faire valoir ces défenses-là? Là?
Oui, effectivement. Là, selon la loi sur la santé publique, il y a des interdictions par rapport au rassemblement et la règle du 2 mètres et également concernant le couvre-feu. Mais il y a des décrets qui ont été édictés qui vous permettent ou qui vous donnent des exemples de situations qui vous permettent de soustraire aux applications de la loi, par exemple. Mm-hmm. Donc, il y a deux volets principaux. On parle du rassemblement et la règle du 2 mètres et le couvre-feu. Donc, si jamais vous recevez une contravention COVID pour la règle du rassemblement et de la règle de 2 mètres, il y a un décret qui est disponible, qui nous donne toutes les exceptions. Puis je vous le donne, là, parce qu'il est disponible sur le web.
Okay.
C'est le 222, le 222-2020. Donc, à ce moment-là, il y a les exceptions qui sont prévues que vous pouvez invoquer.
Pour les rassemblements, là.
Pour les rassemblements, okay. La règle du 2 mètres.
Puis ça ressemble donc, à quoi comme exception?
Ben, si tu dois, par exemple, aller dans un endroit tel qu'une pharmacie, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une des exceptions qui est prévue. Mais mm-hmm. celle qui est la plus intéressante, c'est l'exception qui est prévue au point 4. Donc, si tu ne respectes pas la règle du 2 mètres, mais que tu reçois un service ou un soutien d'une personne en particulier, c'est une exception qui est prévue et donc tu peux être acquitté. Et c'est ça qui s'est passé avec en Abitibi, lorsque la Cour du Québec a acquitté une personne qui a invoqué ce genre de défense.
Mm-hmm. Donc,
je vous donne l'exemple.
Ouais, OK. Donc, cette personne-là dit, ben, contravention, mais la personne avait besoin de moi, donc il pouvait se rapprocher ou?
Ben, c'est ça. Dans le fond, ce monsieur-là, il invoque qu'il y a eu un problème mécanique, qu'il s'est retrouvé dans un stationnement d'église, et à ce moment-là, qu'une personne, spontanément, lui a offert de l'aide, du soutien, et pour ce problème mécanique-là. Et les policiers ont vu à ce moment-là que de la proximité, et a donné une contravention COVID.
Mm-hmm.
Ce monsieur-là est allé invoquer, effectivement, l'exception, et a dit, cette personne-là m'offrait un soutien en cas d'urgence, donc, c'était une exception qui était prévue au décret et effectivement, le juge l'a acquitté parce que c'était une défense raisonnable.
OK. Bon, on comprend bien ça. C'est pour ce qui est des règles sanitaires de distanciation et ça inclut quelqu'un qui aurait eu une contravention aussi parce qu'il n'y avait pas le masque, là, par exemple?
Oui, puis qu'il n'avait pas respecté la distance minimale okay. de 2 mètres.
Puis j'imagine que là, les masques, il y a des défenses à dire, ben j'ai une condition médicale qui fait que je ne peux pas le porter. Ça pourrait être une défense?
Bien, sûrement, mais c'est pas ça qui est indiqué comme une des exceptions prévues dans le décret. Mais sûrement, si vous invoquez une condition médicale, possiblement que c'est une bonne défense tout de même.
Mm-hmm. Bon, on peut être imaginatif sans vouloir inciter à tout contester. Mais dans ce que je vois de cette portion-là, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que le soutien qui est mentionné comme exception?
Non, pas vraiment.
OK, c'est pas mal le soutien. OK, on comprend bien. Bon, allons sur l'autre cas que là, d'après moi, il y a beaucoup plus d'exceptions. Tout ce qui est couvre-feu. Pourquoi vous êtes à l'extérieur durant le couvre-feu? Quelles sont les exceptions?
Vous avez bien raison, il y en a beaucoup plus, puis c'est indiqué dans le décret 2-2021. Et là, on a plein d'exceptions qui est, par exemple, nécessaire au travail. Une personne qui se rend dans une pharmacie pour obtenir des médicaments, une personne qui va se rendre à l'hôpital, à une clinique de vaccination, mm-hmm. un parent blessé ou un cours, par exemple, qui doit être en présentiel à l'université pour un laboratoire, par exemple.
Ah.
Et dans ce décret-là, en plus, il y a même une petite section qui fait référence aux chiens. Donc, une personne qui doit sortir son chien pour faire ses besoins, et c'est bien mis entre guillemets, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour de sa résidence, ben c'est permis, c'est une des exceptions qui est prévue à ce décret-là pour l'application du couvre-feu.
Oui, d'où la blague qu'il y a des gens qui louaient des chiens parce que le monde voulait sortir. Mais OK.
Exactement.
Sur ça, on a-tu déjà pas mal, à votre connaissance, est-ce qu'il y a déjà eu des contestations qui ont fonctionné ou...
À date, là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a eu deux contestations, dont celle qui a été acquittée, là, la personne comme telle, celle que je viens de vous nommer, un problème mécanique. Puis il y a eu une autre histoire d'une personne qui s'est retrouvée dans une résidence qu'on considérait qui n'était pas la sienne. Mais finalement, cette personne-là aussi a été acquittée parce qu'elle disait que c'était une résidence qui était quand même secondaire. Là. Fait que ça, c'est deux cas que j'ai vus. Mais il n'y en a pas une tonne et je pense sincèrement que ça va être interprété de façon restrictive, là. Ouais. Vous savez quand même, depuis le 29 mars ou 16 mai, excusez-moi, ouais. Il y a eu 8140 contraventions COVID qui ont été données. Là.
OK. C'est sûr, ça fait pas mal de contraventions. Ça fait des bons montants, ça. Là.
Bien, si on calcule le 8000 contraventions à 1000 $ qui est l'amende de base, ça fait quand même 8 millions. Si on rajoute les frais, etc., c'est ça qui nous mène au fameux 1500. Donc ça fait 12 360 000, là. Pour une période de 2 mois, c'est quand même des belles sommes, hein?
Mm-hmm, effectivement. Et en tout cas, ça nous dit bien, ça nous explique bien. Puis j'en ajoute moi aussi dans ce cours de contestation de ticket COVID. Tout à l'heure, je parlais de la constitutionnalité, j'ai de la misère à le dire. Faut savoir aussi, hein, si on est devant la Cour du Québec et on a gain de cause, puis que ce n'est pas, si exemple, un juge disait ce n'est pas constitutionnel ce que vous avez vécu, ce qui serait surprenant encore une fois, faut savoir que la Cour du Québec peut pas créer une stare decisis. Ça veut dire qu'il y a pas de jurisprudence qui se forme. Vous pouvez être acquitté pour votre contravention, mais ça sera pas pour tout le monde. Pour que ça soit pour tout le monde, il faut transférer le dossier à la Cour supérieure. Et là, la Cour supérieure a la compétence en matière de constitutionnalité de rendre des jugements et qui est cette fameuse jurisprudence-là, cet arrêt décisif, qui pourrait faire ouvrir la porte à beaucoup de gens si jamais il y a un cas de non-constitutionnalité. Par contre, on ne se cachera pas que s'il y a un jugement de la Cour du Québec qui est très bien détaillé et qui pourrait être logique, peut aussi, même si ce n'est pas officiel que ça fait la stare decisis, la jurisprudence, bien, peut quand même servir d'ouverture de porte. Mais ce que je vous dis, c'est que pour le moment, c'est l'inverse parce que on sait que dans une société libre démocratique, la santé, c'est une mesure d'urgence. Donc, pour cet aspect-là, écoutez, ça va être beaucoup plus dur. Maître Mongeon, avec le type de défense que vous suggérez, ben, c'est sûr qu'on risque de voir de plus en plus de cas parce que des fois, malheureusement, les policiers, ça va vite. Il y a toutes sortes de policiers. Il y en a qui vont être patients, d'autres un peu moins patients. Donc, ça va arriver que quelqu'un ait une contravention et que pourra la contester parce qu'il y avait une bonne raison, mais préparez-vous avant d'aller en cours. Comme je vous dis, faites 3 copies de vos documents que vous allez fournir, vos preuves, parce qu'il faut en donner une copie au juge, en avoir une pour nous, puis en avoir une pour le procureur qui va être au dossier, qui va sûrement vous contre-interroger également. Donc, ça prend de la préparation. Ça fait le tour, Maître Mongeon?
Oui, puis n'oubliez pas, hein, toutes les instructions sont sur le ticket. Vous avez 30 jours pour le faire. Je vous suggère fortement de tout simplement écrire, nommer votre désaccord. Mm-hmm. Et après ça, allez lire les exceptions et vous préparer en conséquence. Là.
Effectivement, très important. Il y en a qui pensent que s'ils ne contestent pas, ils vont avoir un jour une date d'audience. Non, c'est du droit pénal. Après 30 jours, si vous n'avez pas donné de nouvelles, vous n'avez pas plaidé non coupable, bien, c'est un jugement par défaut qui tombe. Et ceux qui ne payent pas, je vous dis, ça double, ça triple. Et au final, ça peut être le huissier qui débarque et saisisse vos biens. Et dans l'extrême, on le sait, on ne sait pas comment on va réagir en droit pénal, mais ça peut aller même jusqu'à l'emprisonnement. Donc, à suivre, M. Mongeon, vous avez raison, c'est important de le mentionner. Merci beaucoup.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des bonnes nouvelles cette semaine. On parle de déconfinement. On donne un plan pour déconfiner. Par contre, est-ce que le message est clair? On se pose la question. Est-ce que ça va bien se passer sans devoir retourner en arrière? Parce que, bon, on a vu ce qui s'est passé à la plage d'Oka. Le party a pogné là, comme on dit. Et c'est pas très encourageant. Même, on voyait dans d'autres pays, bon, on n'est pas les seuls à être comme ça. J'ai vu un reportage en France, il parlait du déconfinement, les terrasses bondées, pas de masque. Même les gens dans l'entrevue disaient qu'ils n'étaient pas vraiment vaccinés. Est-ce qu'on va aller trop vite? On en parle de toute cette gestion-là avec Patrice Ouellette de la méthode 48 heures, gestionnaire de haute performance. Bonjour, Patrice.
Bonjour, Maître Bernier.
Bon, ben, on a suivi tout ça depuis le début, là, comment le gouvernement gère la crise. Et là, on arrive à un moment charnier, dans le fond, à savoir de déconfiner. Comment tu vois ça? Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce que le message est bien compris?
Écoutez, c'est difficile de critiquer la vitesse, mais une chose est claire, on peut critiquer facilement la façon dont le message a été communiqué. Et je me permets une belle citation de M. Einstein qui disait « Si vous ne pouvez l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez. »
Ah, c'est bon.
Et il me semble que le gouvernement a pris quelque chose de complexe puis il l'a rendu encore plus compliqué qu'il l'était.
OK.
Parce que les gens sont écœurés, Maître Bernier, il faut se dire les vrais mots. Les gens en ont ras-le-bol. Il fait beau dehors, le printemps arrive. Mm-hmm. Écoutez, c'est difficile de contenir une population. Puis là, on s'en va compter aux gens tout ce qu'on veut qui arrive jusqu'à fin août.
Ouais.
Écoutez, c'est comme prendre... Écoutez, je trouve tellement que le gouvernement s'est pas donné de chance, met de la pression sur les forces de l'ordre. Écoutez, qu'est-ce que la personne qui a écouté la conférence de presse, qu'est-ce qu'elle a retenu? C'est ça la vraie question. Alors, avant de communiquer un message, il me semble qu'on devrait se poser la question, qu'est-ce que les gens vont retenir?
Mm-hmm.
Et là, écoutez, j'étais dans la rue mardi à domicile.
À la conférence de presse, là. La fameuse.
Après la conférence de presse. Puis, je discutais un peu, évidemment, en respectant la distanciation avec quelques voisins. Personne était capable de me dire, de répondre aux questions que je demandais. À quel moment je vais pouvoir inviter des gens chez nous?
Mm-hmm.
Personne n'avait la même réponse. Donc, ça me dit une chose. C'est sûr qu'on va voir toutes sortes de comportements qu'on va peut-être qualifier de délinquants, mais en même temps, c'est que le message est tellement, tellement pas clair. Faut pas oublier une chose. La santé publique, là, c'est des scientifiques.
OK.
Et un scientifique, ça communique pas de la même façon qu'un expert en communication. Et d'ailleurs, je me demandais, Maître Bernier,
mm-hmm.
les meilleures personnes pour communiquer, là, c'est souvent les chefs de syndicats.
Ah, ouais.
Ils vont prendre quelque chose qui est complexe, une grosse convention, puis ils vont marteler trois messages, et c'est avec ça qu'ils vont aller à la guerre, comme on dit.
Ouais.
Et pourtant, une convention collective, c'est complexe. Il y a plein de clauses dans ça, il y a des exceptions. Mais ils vont prendre ça, puis ils vont communiquer ça de façon très, très simple pour que le message ait de l'impact.
Mm-hmm.
Et là, je comprends. Écoutez, je serais dans la peau de M. Legault. Ou Arruda, c'est vrai, il y a différentes régions, il y a différentes couleurs. C'est complexe à communiquer. Et à ce moment-là, quand c'est complexe, ben, le meilleur conseil moi que je peux donner aux gens, c'est de garder ça le plus court possible, diminuer l'échéancier. Parce qu'essayer d'expliquer aux gens tout ce qui va se passer jusqu'à fin août...
Mais sachant pas également... Qu'est-ce qui peut arriver? Là, je veux pas être prophète de malheur, mais
il y a
les fameux variants. Est-ce que la vaccination va bien? C'est ça. C'est peut-être un peu comme ils ont fait à Noël. Là. Ils veulent rendre les gens heureux, je comprends, là, mais peut-être trop vite. Là.
Ben, écoutez, moi, je peux vous dire, Maître Bernier, qu'une chose que j'ai, deuxième chose que j'ai pas aimé, c'est qu'on s'en va nous dire qu'on est à 75 %, on a atteint l'objectif. Excusez-moi, on était à 49 %. Ça, c'est comme dépenser sa paye de vacances d'avance.
OK.
Hein, on a pris tous ceux qui avaient un rendez-vous, puis on les a rentrés dans les chiffres. Ça faisait beau, ça paraissait bien.
Ouais.
Mais si demain matin, on nous annonce que le vaccin Moderna est retiré des tablettes de 75 %, excusez-moi, il vient de tomber à l'eau.
Oui. Et il y en a qui, j'ai vu ça, il y en a qui prennent des rendez-vous, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se présenter. Il y a certaines personnes qui craignent encore le vaccin.
Ah oui.
C'est humain, là, je veux dire. Il y en a qui pensent qu'ils vont se transformer en zombies dans 5 ans. comme ouais. dans Walking Dead. Non, non, je fais des blagues, mais il y en a qui ont cette crainte-là. Donc, je comprends de tout de suite dire si tu as pris ton rendez-vous, ça veut dire que on te compte comme vacciné. Ça peut porter un problème. Mais il y a des gens aussi. Vas-y.
Oui. Non, j'ai trouvé que le gouvernement est allé de un, c'était très complexe l'information, et de deux, on nous a communiqué des chiffres. C'est comme si on nous crée un peu une ambiance euphorique. On a déjà gagné, alors que la victoire est loin d'être acquise.
Mm-hmm.
Et c'est comme débuter un match de 4-7. C'est le dernier match. Puis il y a une équipe qui embarque sur la glace. Puis dans leur tête, ils ont déjà gagné. Ben, ouais. Les chances de gagner viennent de diminuer à cause de ça.
Non, puis l'exemple d'Oka, c'est un peu ça, là. Tout le monde entend déconfinement, puis ça s'arrête au mot point final, là, sans les conditions. Parce que c'est le 28 qu'on va pouvoir aller sur des terrasses, c'est pas là, là. Puis c'est le 28 qu'on va pouvoir inviter des gens, c'est pas là. 28, ça va être 8 personnes dans une cour avec la distanciation. Et par contre, on reste en zone rouge. Théoriquement, les autres règles restent en place. C'est ça qui va être difficile à comprendre.
Là. Ah bah oui, puis écoutez, en communication, il y a des règles d'or qu'on peut pas se permettre de... Écoutez, tant qu'à moi, il y a énormément de confusion qui règne. Et il faut vraiment simplifier le message. Je regardais les graphiques qu'on nous a mis disponibles sur les sites du gouvernement où on essaie de montrer des dates. Mais écoutez, vous lisez ce graphique-là, je pense qu'il y a 10 personnes qui vont le lire, il y a 10 personnes qui vont avoir des interprétations différentes.
Mm-hmm. Ouais. Ça peut être problématique. Mais est-ce on est allé trop vite ou c'est vraiment, il aurait fallu être plus clair, plus précis dans le temps, là?
Ben, moi, je pense, M. Bernier, que d'un, trop vite, c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe sur la planète, je pense qu'on a tous les extrêmes. Vous allez en Floride, puis le rythme de vie est revenu comme il était avant. Il n'y a aucune norme. Vous allez au Texas, c'est à peu près la même chose. Au Québec, on prend une approche très, 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 très prudente. Et je suis pas en train de critiquer si c'est la bonne ou la mauvaise approche. Mais en écoutant les nouvelles de votre domicile le soir, vous recevez un paquet de signaux complètement contradictoires.
Mm-hmm.
Parce que vous êtes en droit de vous demander pourquoi il y a des places qui déconfinent aussi vite et qui peuvent reprendre leur liberté, puis qu'ici, on nous met des zones et ça devient complexe. Et c'est pour ça qu'on voit des débordements aussi un peu. C'est que les gens aussi en ont un peu, je dirais pas ras-le-bol, mais les gens sont fatigués. Ils ont participé à l'effort de guerre, comme on dit. Le printemps arrive, la chaleur, les beaux moments, on va pouvoir être dehors. Écoutez, c'est...
Mais est-ce que tu penses...
Ouais. Oui.
Mais est-ce que tu penses que s'il avait pas fait ça, d'être positif comme ça, puis d'annoncer ce qui allait se passer, les gens sont tellement écœurés qu'ils auraient perdu le contrôle simplement avec le beau temps, puis les gens auraient fait ce qu'ils voulaient? Ou?
Ben moi, je pense que s'ils auraient gardé leur horizon, voici les 3 prochaines semaines, nos objectifs et, les normes qu'on va mettre en place. À ce moment-là, le message est beaucoup moins complexe parce que d'un, il y a moins de paliers à atteindre. On parle pas de 3 mois plus tard avec une tonne de conditions. Donc, ça permet de rendre le message beaucoup, beaucoup plus efficace, plus percutant, et il y a plus de chances que les gens le respect, le message, parce qu'ils comprennent la base du respect d'une norme, c'est la compréhension.
Mm-hmm.
Si les gens peuvent l'interpréter à leur façon, parce qu'il y a trop de mots, il y a trop de dates, il y a trop de normes, ben écoutez, le gouvernement se donne pas de chance, il va créer, je dirais pas que ça va être l'anarchie, mais vous comprenez, c'est que on met la pression, on est encore dans une situation, on essaie de contrôler, c'est les forces de l'ordre qui vont être pris à essayer de tout démêler ça, puis est-ce qu'ils interviennent dans telle situation, quelle façon d'intervenir, je trouve que c'est très, très, très confus.
C'est une bonne question, et est-ce qu'ils continuent à donner des contraventions? À voir ce qui s'est passé au cas, ils n'auront pas le choix. D'ailleurs, on va parler à un policier à l'émission qui va nous dire pourquoi ils sont pas tant intervenus. Là, tu sais, je sais qu'il y a 1000 personnes. Qu'est-ce que tu fais quand tu es policier? Mais c'est ça, on arrête de donner des contraventions. Puis, Patrice aussi, s'il avait le malheur de revenir en arrière comme il a fait à Noël, là, c'est la débandade. Là, c'est
Je suis d'accord, M. Bernier, mais en même temps, le plan qu'ils nous ont présenté a tellement de conditions. Écoutez, puis c'est un plan de 3 mois et demi fin août. Dans la dernière année, on nous changeait même les normes à toutes les semaines, parfois. Comment est-ce qu'on peut arriver tout d'un coup puis dire qu'on a un plan, puis il est bon pour 3 mois et demi, ça ne fait pas de sens, ça tient pas la route.
Mm-hmm.
Donnons un plan d'action beaucoup plus court avec des comportements précis qu'on veut obtenir. Arrêtons cela.
OK.
Regardez, je reviens chez les chefs de syndicats, je suis pas en amour avec eux, mais ça, il faut quand même lui donner à César ce qui appartient à César. Ouais. Ils martèlent souvent un message sur lequel ils reviennent tout le temps.
Mm-hmm. Bon, mais le message du gestionnaire est passé. Effectivement, que ce soit le gouvernement, une entreprise ou n'importe qui, la gestion, c'est comme ça. Il faut être assez organisé et la communication est importante. On le comprend. On espère qu'ils auront raison puis que tout va se passer selon le plan. Mais merci beaucoup, Patrice. On va se reparler de la suite.
Un plaisir, M. Bernier.
Bonne journée. Bye-bye.
Au revoir.
Cube Radio.